voici entre Loire et Loin, comme chaque samedi à 10h sur C2L. C'est le magazine du Gâtinais. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter. Bienvenue pour un numéro très spécial, puisque entièrement consacré à la fabuloserie et au manège de Petit Pierre. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, parce que c'est le cas pour beaucoup de Montargois, peut-être que ça va être une découverte ce lieu. Mais si vous aimez l'art, l'architecture, la poésie, nous allons parler d'un endroit tout à fait unique et qui est à connaître absolument. Si vous prenez la route de Châteaurenard depuis Amilly et que vous continuez en fait toujours tout droit sur une trentaine de kilomètres, vous allez arriver à la frontière entre le Loiret et l'Yonne, dans un petit village appelé d'ici Charny-Auray-de-Puisaye. Et là, au milieu du village, un petit panneau, là, sur la droite, vous indique la fabuloserie. C'est juste là. Une maison-musée, un jardin habité où on peut découvrir une étonnante collection d'art hors les normes. Ça date du début des années 80. Alain Bourbonnais, le créateur de cette fabuloserie, est malheureusement décédé en 1988, mais le lieu reçoit toujours de plus en plus de visiteurs qui viennent chaque année du monde entier pour admirer cette collection. Et nous y avons été reçus par Sophie Bourbonnais, une des filles d'Alain, qui va nous raconter l'histoire incroyable de ce lieu et plein d'autres choses tout au long de ce numéro spécial entre Loire et Loin. Mais on commence par une petite pause musicale.
Le bruit, la circulation de folie. En sortant comme d'hab, tu t'es dit que t'aurais mieux fait de rester dans ton lit. Comme d'hab, ton canard, tu l'achètes, le sudoku, les mots croisés. Et tu sais sans même y penser que t'aurais mieux fait de rester sous la couette. Il faut se lever avec espoir, il faut bien tirer sa journée. Il faut la filer jusqu'au soir, chaque matin recommencer. Les rêves que la nuit t'apporte ne te rendront pas le passé. Au matin, la lumière forte n'éclaire que des draps froissés. Tu peux bien calculer la porte que t'as toi-même refermée. Ton oridis est deux fois morte et le verrou deux fois tourné. Il faut pourtant garder l'espoir, se lever, tirer sa journée. Il faut la filer jusqu'au soir. Chaque matin, recommencer. Avec juste un truc fort à boire, passer comme on peut la soirée. Et si la nuit tout est tout noir, un nouveau jour doit se lever. L'aube pâle, la glace ronde, tes joues rêches, tes yeux cernés te disent c'est pas tout le monde que l'amour a si bien baisé. Et moi je t'aime sans le dire, ton front gris, tes regards brûlés. Jour après jour que tu respires, je t'aimerai jusqu'au dernier. Lentement perce le soleil, en grinçant s'ouvrent les volets. Le bruit de Paris qui s'éveille et le ciel blanc comme du lait. Chaque matin, recommencer.
C2L.
Nous sommes entre Loire et Loin sur C2L. Merci de nous écouter. Et comme je vous l'annonçais pour démarrer cette émission, c'est un numéro spécial fabuloserie en compagnie de Sophie Bourbonnais que nous allons écouter aujourd'hui et que vous pouvez également voir en vidéo sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loin, comme chaque semaine. Transportons-nous donc dans ce jardin habité de la fabuloserie à une trentaine de kilomètres de Montargis, à la frontière de Lyonne.
Bonjour Sophie Bourbonnais.
Bonjour Sandrine.
Alors merci de nous accueillir, nous on est entre Loire et Loin et comme on profite de ce dernier week-end de liberté, on s'est dit vite, on court et on vient voir une des plus belles choses, un des plus beaux lieux qui existent en fait de l'autre côté de la frontière administrative ici à Dissy. On est déjà en Puisaye mais on est en lisière de Loiret hein, puisque Douchy-Montcorbon est juste à côté et là on a un musée extraordinaire qui n'est pas un musée, qui est un lieu d'artiste. Et vous êtes la fille de ce grand artiste.
Une des filles,
qu'est Alain Bourbonnais. Racontez-nous.
Oui, effectivement, mon père était un artiste. Enfin bon, nous, on ne le voyait pas vraiment comme ça, mais il était avant tout pour nous architecte, hein, puisqu'il travaillait beaucoup. Il a construit beaucoup de choses très importante, deux théâtres, Caen, Luxembourg, une église à Saint-Cloud. Il a réalisé la station RER Nation, qui était une des quatre premières stations de RER sur Paris, désignée par le général de Gaulle comme architecte. Donc, nous, on le voyait beaucoup comme ça. Mais ici, c'était son havre d'ici. Très vite, avec ses premiers honoraires, il a acheté cette maison, dont il est tombé amoureux instantanément quand il l'a visitée. Et parce que c'était une maison, déjà il cherchait une maison près de la rivière qui était similaire, qui lui rappelait disons la maison où il était né dans le Bourbonnais, puisqu'il vient du Bourbonnais, à Ainay-le-Château. Il habitait dans une maison tout à fait près d'une rivière avec une église derrière. Je m'amuse souvent à faire un montage photo avec la maison où il est né et cette maison là, prise là, c'est extraordinaire, c'est la même maison. À part que celle d'où il est né, c'est une petite maison. Et que là, ça fait quand même celui un peu qui a un peu réussi, quoi. Mais sinon, c'est le même profil. C'est incroyable comme quoi l'enfance la marque, évidemment, tout le monde, on le sait. Mais là, c'est fascinant. Et donc, il a acheté cette maison. Et avant tout, parce qu'il aimait la campagne, en fait, bien qu'on habite toujours Paris. Et aussi, il voulait créer. Il a toujours peint. Il a toujours peint depuis son plus jeune âge. Et là, il lui fallait de l'espace. Donc, en face de la maison, il y avait ce qui est maintenant l'accueil du musée. Mais à l'époque, c'était le garage. Mais il l'a transformé en atelier, puisque c'était haut sous plafond. Et voilà, il faisait des sculptures. Il a acheté une grande presse. Il a fait des gravures. Voilà. Et puis... Sinon, à Paris, on allait beaucoup dans les musées, évidemment, mais aussi dans les galeries du quartier, puisqu'on habitait à Saint-Germain-des-Prés. Et il était collectionneur, il était devenu collectionneur de peinture, mais il collectionnait en fait des gens plutôt de son époque, hein, le groupe Cobra, Appel, tout ça. Et aussi de l'art forain, parce qu'il était devenu très copain avec Jean-Paul Favon, qui a un super musée d'art forain à Bercy, dans les pavillons de Bercy.
Ah oui.
Très beau. Et donc, il a acheté de l'art forain à Jean-Paul Favon. Et on a quelques pièces dans le musée, d'ailleurs.
On est dans quelles années ?
Les années...
80, début 80.
Ah oui, avant 70, 80, ouais. Et un jour, il allume la télé et il voit Jean Dubuffet, qu'il admirait en tant que peintre, mais dont il ne connaissait pas la collection d'art brut. Et il voit des photos de la rue de Sèvres, de l'endroit où était sauvegardée cette collection. Et il se dit, mais c'est incroyable, ça, j'adore. Et ça ressemble un peu à ce que je collectionne, pas complètement, mais il y a des parentés. Allez, je le lui écris. Parce que ça partait à Lausanne. Dubuffet annonçait le départ de sa collection à Lausanne.
Parce que le gouvernement français n'en avait pas voulu.
C'est ce qu'on dit. Après, on ne sait pas exactement. Dubuffet était quelqu'un de très difficile. Et je crois qu'il demandait des choses très compliquées.
Des garanties,
voilà, ou un lieu. Il était très pinailleur sur le lieu, etc. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'accord. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ce soit que l'un ou l'autre. Voilà. En tout cas, c'est parti à Lausanne. Bon. Mon père lui écrit... Et en lui envoyant une photo, enfin des photos de ses gravures. Et Dubuffet lui répond, mais dans le, pas le quart d'heure, mais oui, parce qu'après, ça a été une partie de ping-pong, leur correspondance pendant 10 ans. Il lui répond dès le lendemain.
Il y a un très beau livre que vous avez sorti il y a 2 ans, 2016. Je crois, un très gros bouquin rouge somptueux sur la correspondance entre votre père Alain Bourbonnais et Dubuffet.
Donc ça, on y a beaucoup travaillé avec Déborah Couette, qui est une historienne de l'art, mais qui connaît très bien la fabuloserie depuis longtemps. On a fait beaucoup de livres avec elle ici. On a sorti là, c'est 114 lettres qui sont étalées sur 10 ans entre mon père et Jean Dubuffet. Et c'est très intéressant. Il s'agit surtout là, en fait, de l'histoire de l'atelier Jacob. Donc, mon père finalement rencontre Jean Dubuffet, et Jean Dubuffet lui dit :« Ah, vous me plaisez, je ferais bien quelque chose avec vous. » Toujours son charisme. Hein. Et voilà. Et il a monté une galerie rue Jacob. Et Jean Dubuffet lui dit :« Je vous donne des adresses de créateurs. Vous allez les voir de ma part. » Et je vous prête pour l'ouverture les œuvres d'Aloïse Corbaz, qui est une ténor de l'art brut. Et effectivement, on a ouvert avec les œuvres d'Aloïse Corbaz. Et voilà, c'est parti pour 10 ans d'aventure. Mais à l'époque, l'art brut n'avait aucune cote, c'était pas connu. On a eu beaucoup de presse, beaucoup de public, et énormément de presse. Des vernissages somptueux à l'époque, c'était extraordinaire, les vernissages, et mon père avait le sens de la fête, hein, les fêtes des beaux-arts, etc. Donc c'était vraiment toujours extraordinaire, ouais, voilà. Et les gens s'en souviennent encore, hein, qui viennent dans ma galerie, ils se souviennent des vernissages de l'atelier Jacob. On a refait dans cet esprit-là d'ailleurs en 2016 pour la sortie de ce livre. J'ai réussi à emprunter à mon voisin sa galerie, qui est l'ancien atelier Jacob, pour une semaine, et on a fait une grande fête, et avec la fanfare, une fanfare et les turbulents, enfin 2-3 costumes de turbulents, et on a dansé dans la rue Jacob.
Alors, parce que il faut bien dire à ceux qui connaissent pas votre parcours qu'il y a ici donc ce lieu à la base. Donc vous dites votre père Alain et votre mère également évidemment, hein, on va pas l'oublier, achète ce lieu pour se ressourcer et pour qu'Alain puisse créer, entre autres dans cet atelier qui est derrière nous.
Il l'a construit une fois que la fabuloserie a été ouverte, puisqu'il n'avait plus de place pour créer. Donc ça, il l'a construit en 83.
Ah d'accord. Voilà. Mais à la base, c'est pour créer. Oui, lui, voilà, c'est pas encore un musée.
Ah non, pas du tout.
Et donc, à l'heure actuelle, donc, après, la fabuloserie va devenir ce musée qu'il met en scène pour pouvoir être un écrin pour sa collection d'art brut.
Sans idée de l'ouvrir au public, hein, au départ.
D'accord.
C'était vraiment parce que, du coup, il a fermé sa galerie au bout de 10 ans. Puisque ça ne fonctionnait plus. Sur le plan financier, ça devenait pas possible. Et il a ramené ça ici. Et il a fait cet écrin, effectivement, mais pour y loger sa collection, sans idée de l'ouvrir au public. Et, parce qu'il avait bien d'autres choses à faire qu'en plus se ramuser et tout. Bon. Et finalement, c'est Michel Merlier, qui a d'ailleurs ouvert un musée à Auxerre sur l'œuvre de son mari.
D'accord.
Récemment, il y a 2 ans, qui était un ami sculpteur de mon père. Et qui lui dit, mais tu peux pas garder ça pour toi, enfin voyons, elle travaillait à Auxerre dans la culture, il faut ouvrir ça au public. Oh, mon père dit, ah bon, quelle idée. Oh ben oui, et finalement on a ouvert au public, et au début, ça, bon, il y avait très peu de gens, hein, mais ça a pris, et maintenant on arrive à 15 000 par an, on a commencé avec 500. Quoi.
Alors à la mort de votre père...
Ouais, 2000, j'ai les papiers là, parce que maman tenait toute la comptabilité, très bien. En 88, quand il est décédé, il y avait 2000 personnes qui venaient. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, 2000. On avait ouvert en 83. Enfin oui, en 5 ans, on avait 2000 personnes.
À une époque où, il faut bien le dire, l'art brut était très confidentiel. Oui. C'est pas du tout la dynamique et l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle pour l'art hors les normes.
Non, pas du tout. C'était pas du tout connu. Non, non. Il y a même pas, enfin, il y avait même pas un petit noyau, je dirais. Enfin, non, ce n'était pas du tout connu.
Ça a été le début quand même, bah, entre autres, de, au marché Saint-Pierre, de la halle Saint-Pierre aussi.
Saint-Pierre. Alors, la halle Saint-Pierre, elle a ouvert, ou non, elle a ouvert après. Hein.
88,
ouais, voilà, oui, c'est ça. Oui, oui. Et on a fait d'ailleurs des très belles expos en 88, là-bas.
Et donc, à la mort de votre père, c'est Caroline, voilà, votre mère, qui va reprendre les rênes de la fabuloserie.
Voilà, tout à fait. Et pendant, bah, jusqu'en 2014. Voilà. Mais bon, nous, on y a toujours travaillé, hein, avec ma sœur. On n'est pas arrivé comme ça tout d'un coup. On a participé à tous les livres parce qu'il faut éditer des catalogues sur Petit Pierre, sur la fabuloserie. Donc, nous, on a toujours participé par exemple aux livres. Moi, je faisais la gestion depuis longtemps, la comptabilité depuis 2010 ou quelque chose comme ça, sur ordinateur, parce que maman ne savait pas se servir d'un ordinateur, ce qui est logique. Donc oui, on a toujours quand même participé, mais on avait d'autres métiers. On était prises à Paris, ma sœur était dans l'éducation nationale, moi j'étais architecte. On a toutes les deux eu des enfants tard, donc nos enfants étaient en bas âge, donc on était assez occupés. Bon.
Mais de toute façon, vous me disiez que votre père vous avait toujours demandé de mettre, voilà, la main à la pâte.
Voilà, toujours, oui, oui, tout à fait. Et donc, ben, maman, elle a... Alors, maman, justement, a beaucoup développé le jardin, enfin le parc, enfin le jardin habité, oui, voilà. Elle aimait beaucoup le parc et c'est elle qui a fait venir les girouettes qu'on va voir plus tard, les girouettes de Berthold, Jules Danlou, La Petite Afrique, elle a beaucoup, Vassallo, voilà, elle a beaucoup peuplé le parc.
Bon, alors du coup, on va s'avancer, voir vers le parc.
Sophie Bourbonnais qui nous raconte l'épopée de la fabuloserie au micro de Sandrine Manteau. Entre Loire et Loin, la suite de cette visite guidée dans quelques instants après une petite pause musicale. Mais auparavant, je souhaitais vous inviter, si vous le pouvez, à vous connecter sur internet et à chercher les images de cette fabuloserie pour voir de quoi on parle, de cet endroit incroyable. Et puis... faites également une petite recherche sur le manège de Petit Pierre, dont nous parlerons tout à l'heure. Et si vous tombez, par hasard, sur Kiss Kiss Bank Bank et sur la cagnotte en ligne pour sauver ce manège de Petit Pierre, n'hésitez pas à faire un don, parce que bah, bientôt, quand les conditions sanitaires s'y prêteront, vous pourrez y emmener vos enfants, découvrir ce lieu, et vous serez fiers d'avoir participé au sauvetage de cette incroyable installation. A tout de suite sur ces deux ailes.
C'est trop comme vu d'ici, tout ce que j'ai quitté me fait soudain envie. C'est bête car vu de près, tout ce que j'avais, je m'en souviens de tout faire. C'est drôle, comme vu de loin, le ciel et la mer. Je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche. C'est drôle comme on s'ennuie, sans promesse, sans main, sans parole à tenir. C'est bête comme on s'entête à s'en défendre ou à faire comme si. C'est bête comme vu de près, même le soleil. We'll be right back. cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche tout ce qui me manque. Me manque.
Ces deux ailes.
Entre Loire et Loin, merci de nous écouter. Nous sommes aujourd'hui à Charny-Auray-de-Puisaye, à la frontière entre le Loiret et Lyon, à la Fabuloserie, en compagnie de Sophie Bourbonnais qui nous fait visiter ce lieu incroyable et nous raconte son histoire.
Alors voilà Sophie, on a bougé dans ce jardin parce qu'en fait c'est ça qui va être ouvert cette saison à la Fabuloserie. C'est le jardin en raison des normes sanitaires. Voilà. Vous proposez une heure de visite du jardin, c'est une heure libre ou commentée ?
Non, c'est une heure commentée. Bon, bien qu'il y ait des cartels qui expliquent la vie de chacun, mais de toute façon, on a le manège de petit Pierre qu'il faut faire fonctionner et qu'on ne peut pas faire fonctionner comme ça à la demande parce qu'il fonctionnerait trop souvent. Donc, c'est une visite guidée. Et par contre, dans le musée, maintenant, c'est libre, mais avec des médiatrices. Voilà. Mais dans le parc, on a toujours gardé guidé et les gens sont contents. Enfin, ça se passe bien.
Ben voilà. Oui, les gens sont contents. Mais donc, tout ça pour dire qu'on ne pourra pas rentrer dans les galeries de toute façon dans le musée. Voilà.
J'ai déjà obtenu je suis en rapport depuis l'année dernière avec la sous-préfète d'Avallon, Madame Raquette, qui est très efficace. Et du coup, elle m'a donné l'autorisation d'ouvrir le parc.
Alors,
en respectant bien sûr un circuit où les gens ne se croisent pas, mais qui va de soi, puisqu'il y a une allée qui fait le tour de l'étang. Donc on ne va pas se croiser, c'est obligé, on fait toujours le tour comme ça, et puis voilà.
Donc là, on est face aux girouettes de Jean Berthol, et vous disiez que c'était votre maman, Caroline, voilà, qui les a fait venir. Oui. Donc ce qui veut dire que vous avez continué par la suite à enrichir la collection d'Alain après sa mort.
Voilà, tout à fait, on continue encore un petit peu, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident d'abord de trouver encore de l'art brut, hein. Et puis on a déjà beaucoup de choses à gérer parce qu'après quand on a des choses, on est beaucoup sollicité pour des donations, des dons, mais après il faut les conserver, il faut les exposer, il faut les répertorier, enfin c'est tout un travail et on a encore une petite structure, on n'a pas l'équipe pour faire tout ça.
Alors en parlant de petite structure, il y a quand même une chose qu'on précise, c'est parce que je voulais le dire tout à l'heure, vous avez monté la galerie il y a quelques années, la galerie parisienne, donc en face de l'ancienne galerie de votre père. Et cette galerie de la Fabuloserie a impulsé une vraie dynamique en corrélation avec le musée,
voilà,
ici.
C'est vraiment l'idée de la galerie à Paris, elle s'appelle la Fabuloserie Paris. C'est vraiment pour donner une vitrine, disons, sur Paris, pour ici. Et ça fonctionne très bien. Et j'organise depuis aussi tous les ans un autocar, parce que les Parisiens ont de moins en moins de voitures. Et alors, ils me disaient tout le temps « Oh, mais on ne peut pas venir à la Fabuloserie !» Donc, je loue un autocar et on vient, on fait un vernissage, un pique-nique dans le parc, qui a de plus en plus de succès. Enfin, sauf l'année dernière, j'ai annulé. Et cette année, je n'ai même pas programmé. Hein. Mais sinon, je reprendrai ça après. Et l'autocar, 50 personnes qui arrivent un samedi, c'est très festif, les gens sont ravis, quoi. Et ils me demandent tout le temps « Alors, l'autocar, c'est quand ?» Mais il faut faire un deuxième. L'année dernière, j'avais une liste d'attente, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est positif, ouais.
Quand je regarde derrière vous, Sophie, je vois encore de l'autre côté un autre artiste qui fait des personnages en béton armé, oui, c'est cela. Oui. Et derrière encore un décor, oui, qui a été créé par votre père également.
Oui. Ça s'appelle le mur présentoir. Il a créé ce mur pour y mettre les arborescences de François Portrait. C'est-à-dire les arbres, toutes les assiettes, enfin tout ça. Et on peut y voir une réminiscence de l'architecture de Gaudi, du parc Güell à Barcelone. Donc ça, vraiment, voilà, c'est un décor qui présente bien les sculptures.
Et ça illustre bien ce qu'on disait, c'est qu'on est dans un lieu de muséographie très fort qui en soi est une œuvre d'art. Et vous disiez que c'était très original. Vous ne pensez pas qu'il y a un autre musée qui ait cette identité-là ?
Oui, voilà, j'essaye de chercher dans ma tête et dans tous les musées que je visite. Mais en fait, c'est presque un lieu unique, je pense, dans le fait que vraiment la collection est mise en scène par le collectionneur lui-même, et ainsi que ses créations à lui. Enfin bon, c'est vraiment un tout.
C'est un dialogue.
Voilà, c'est un dialogue entre le lieu, les créations. Et en fait, les gens inconsciemment le ressentent. Parce que tout le monde nous dit « Ah, mais le lieu est extraordinaire », etc. Tout le monde nous parle de ça. Et vraiment, oui, c'est un ressenti, quoi. On n'arrive pas dans un musée comme ailleurs, quoi.
On n'est pas dans un endroit neutre, on tombe amoureux de créateurs, d'œuvres, mais également du lieu.
Voilà. Exactement.
Ouais. On continue la balade ?
Oui.
Sophie Bourbonnais au micro de Sandrine Manteau. Nous sommes entre Loire et Loing. La visite continue dans quelques instants. Et je vous rappelle que vous pouvez également voir tout ça en vidéo sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loing. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos réactions. Allez, à tout de suite sur ces deux ailes.
Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, alcoolique par mon oncle, dépravé par grand-père, sans classe par vieille honte, névrosé par grand-mère. Royaliste par ma mère, fataliste par mon frère, communiste par mon père, marxiste par mimétisme, hépatique par la guerre, ruiné par les sœurs âmes, vieilli par la bonne chair, abruti par ses dames. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu. Fripon comme un matou, vertueux comme un principe, coureur comme un toutou, foutu comme l'as de pique, sensuel comme un caniche, modeste comme personne, dépravé comme un homme, cabot comme un ministre. Double comme un notaire, jouisseur comme un avare, dur comme un militaire, tendre comme un buvard, ivrogne comme une basse, coureur comme un baryton, con comme un ténor et veau comme le veau d'or. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu. Cocu par ma moitié, brimé par ma concierge, haï par les voisins, détesté par les chiens, raté pour les affaires, ruiné par bonté d'âme, malheureux comme un âne, gâteux comme un fils père. Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, royaliste par ma mère, communiste par mon père, raté par mes aïeux, athée, oh grâce à Dieu. Athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu, athée, oh grâce à Dieu.
C'est deux ailes.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing, le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes, et nous visitons aujourd'hui la fabuloserie en compagnie de Sophie Bourbonnais au micro de Sandrine Manteau. Et nous sommes toujours dans ce jardin habité là-bas quelque part, à la frontière entre le Loiret et Lyon, dans ce musée d'art hors les normes.
Donc alors, encore un endroit vraiment, vraiment qui accroche l'œil et que l'on doit encore une fois à Caroline.
Oui, tout à fait. Jean-Pierre Chette s'est rentré dans la collection donc, en 2008 par l'intermédiaire du musée de Liège en Belgique qui a contacté Caroline, notre mère, pour sauver cet environnement. Parce qu'en fait, on a toujours, la fabuloserie est quand même très connue, on a beaucoup de ramifications avec des musées européen. On prête souvent des pièces. Là, j'ai par exemple une rentrée de pièces qui vient de revenir de Finlande. On a beaucoup de liens avec la Belgique, avec tous les musées à Gand, le docteur Guillain à Gand, etc., le musée MAD à Liège. Donc là, voilà, il y a des interactions qui se font et ils nous ont donné ça.
Mais alors, l'histoire de Jean-Pierre Schetz, si je ne me trompe pas, est très intéressante parce que c'est l'histoire d'un sauvetage. La maison allait être détruite, oui. C'est cela. Et donc, on appelle un peu votre père toujours, ou après votre mère, enfin la fabuloserie en général, l'entité fabuloserie, pour faire des sauvetages. Soudain, vous avez maintenant cette image-là.
Ben, tout à fait, mais c'est une dimension très très importante parce que tous ces habitants paysagistes, hein, comme on les appelle, ils sont beaucoup répertoriés dans des livres. Par exemple, Claude et Clovis Prévost ont passé leur vie en tant qu'écrivain et photographe à répertorier tous ces habitants paysagistes. Mais les œuvres sont détruites à la mort, sans doute, souvent, parce que soit les enfants, ils en ont marre d'avoir ça dans le jardin, soit la maison est vendue, souvent. Et alors, évidemment, les nouveaux propriétaires ne veulent pas de ces œuvres, qui pour eux ne sont pas des œuvres d'ailleurs, donc voilà, donc ça encombre. Donc en fait, quasiment tout ce qui est ici était promis à être détruit. Hein. Et il y en a sans arrêt qui sont détruits, des lieux encore maintenant. Hein. Alors maintenant, il y a un petit peu une prise de conscience, de moins en moins ils sont détruits. Mais enfin, il faut dire, mais dans ces années-là, ils étaient systématiquement détruits. Donc quand on avait la chance d'être averti, en général, on était averti par quelqu'un qui les connaissait. Là, par exemple, La petite Afrique de Jules Danloup, c'est Michel Ragon, qui était un écrivain très connu, un critique d'art, qui était un ami de la famille, qui a d'ailleurs trouvé avec notre père le nom de la fabuloserie. C'est eux deux qui ont trouvé ce nom-là, ensemble. Et en fait, ça, Jules Danloup habitait à Boès, dans le village où Michel Ragon a sa résidence secondaire. Et un jour, il a appelé maman, il lui dit « Oh là là, il faut venir vite, viens voir, ça va être détruit. » Et ça a été transporté à la fabuloserie. Voilà.
Alors, ça tombe bien, ça fait une transition vers le plus grand sauvetage qui est fait à Alain Bourbonnais, c'est celui de Petit Pierre. Et à l'heure actuelle, justement, eh bien, il y a un nouveau sauvetage à faire. Là, c'est vraiment d'actualité, c'est réussir à sauver la tour Eiffel de Petit Pierre, oui. Et on y va tout de suite du coup.
On entre dans le cœur du sujet. Sophie Bourbonnais et Sandrine Manteau se dirigent à présent dans la partie du jardin de la fabuloserie où est installé le manège de Petit Pierre. Nous allons les y retrouver dans quelques instants après une pause musicale et nous allons entendre cette incroyable histoire. Mais vous avez certainement entendu Sandrine à l'instant évoquer un sauvetage. Et c'est vrai que jusqu'à la fin du mois, une cagnotte en ligne a été ouverte pour essayer de récolter des dons pour sauver cette œuvre. C'est sur kisskissbankbank.com. Cherchez sur le web, vous trouverez la cagnotte, vous aiderez le manège de Petit Pierre. Participez, allez voir les images, allez visiter sur place dès que vous le pourrez. C'est du rêve, c'est de la poésie, c'est tout près d'ici. On continue donc la visite dans quelques instants. Merci d'écouter Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Qu'il est bête.
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi, tu pars avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas, ce que je vois, ça met en joie, tu fais planer des bagnoles, et toi, tu fais le rossignol. Dans ma tête, c'est la fête.
C'est Deux Ailes Radio
89.3.
Bon, alors voilà. Donc, ici, c'est bien, on est un petit peu protégé, oui. Déjà, on est contente. Ici, c'est le fleuron de la fabuloserie. Est-ce que vous le considérez comme tel?
Je le considère comme le fleuron de la fabuloserie et un des fleurons de l'art brut. Donc, oui, bien sûr, oui. C'est, enfin, maintenant, c'est mis de plus en plus au même niveau que le palais idéal du facteur cheval, qui a quand même été deuxième monument préféré des Français l'année dernière. Donc, le Petit Pierre, c'est vraiment aussi émouvant. Il y a des parallèles dans l'histoire de ces deux hommes. Donc voilà, c'est vraiment oui, une œuvre unique en plus. Ici, en plus, elle fonctionne. Donc, comme disait Laurent Danchin, c'est une œuvre d'art brut cinétique. Donc voilà.
Alors, plusieurs choses. D'abord, nous, entre Loire et Loing, on est crâneurs, on est contents parce qu'on est devant l'œuvre d'un Loiretain. Oui. Donc, c'est Féologe. Vous pouvez nous retracer quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques phrases Qui est Petit Pierre?
Alors, Petit Pierre était effectivement Loiretain et il est né en 1909 avec une maladie congénitale qui est le syndrome de Treacher-Collins, qui est une déformation faciale, et pas de pavillon d'oreille, pas de palais. Par contre, c'est une maladie qui n'atteint pas du tout le cerveau. On s'en est surtout aperçu maintenant, enfin avec les recherches, parce que comme ces gens étaient vraiment très très déformés, ils étaient mis un peu au rebut de la société, à telle enseigne que les parents de Petit Pierre l'ont enlevé de l'école parce qu'il était soumis à la raillerie de ses camarades. Donc c'est sa sœur Thérèse qui lui a appris à écrire, à écrire, à lire. Et donc, après quoi faire? Et finalement, il est devenu garçon vacher. Et il a été embauché dans une ferme et il s'est pris vraiment de passion pour les vaches. Mais pareil, arrivé dans cette ferme, il a été aussi soumis à la raillerie de ses comparses, de ses collègues. C'était une grosse ferme à la Coinche, de là où il habitait. Et donc, il s'est réfugié dans le fenil de l'étable. C'est là où on met le foin. Il s'est dormi là. Et il a inventé une machine pour distribuer des betteraves aux vaches qui préféraient. Bon, et là, le paysan, l'agriculteur qui l'avait embauché, a été assez émerveillé par son ingéniosité et lui a construit une petite maison en terre sur un lopin de terre lui appartenant. Et là, Petit Pierre, il s'est mis à remonter ce betteravier là, et puis à faire, à commencer le manège, à commencer la tour Eiffel, puis ce manège en utilisant des morceaux d'un avion qui s'était scratché pendant la guerre dans le champ d'en face. Donc c'est pour ça que tout est en tôle. Il a découpé les tôles de cet avion. Et l'inspiration est venue aussi du fait que son petit frère Léon l'emmenait en voyage chaque année dans une ville européenne, carrément. Hein, comme ça qu'il a fait la Tour Eiffel. Il avait fait aussi l'Atomium de Bruxelles, mais qu'on n'a pas là, qui a été détruit.
Ah,
oui, voilà. Et donc, il a fait le Concorde qu'on voit là-bas. Voilà, il était très ingénieux et en fait, il a quand même réussi. Et après, son patron lui a construit une maison sur ce lopin de terre devant son manège. Il a quand même réussi à avoir un lopin de terre comme ça, par son charisme.
C'est ça. En fait, ce que vous ébauchiez tout à l'heure en faisant le parallèle entre le facteur cheval et Petit Pierre, c'est le fait que ces deux êtres à part, le facteur cheval, c'est plutôt une sorte de, on va pas dire d'autisme parce qu'on n'en sait rien, mais voilà, taiseux. Et ce Petit Pierre handicapé, ce sont des gens qui vont être entourés d'amour et leur créativité et leur œuvre va leur apporter en fait l'amour aussi. D'autres, ils sont déjà entourés d'amour par leur famille proche et ensuite leur créativité, leur œuvre va leur apporter l'amour des autres et ça donne un nouveau regard quand même sur l'art brut.
Oui, oui, tout à fait, parce que souvent on parle de l'art brut, on dit oui, ce sont des gens isolés, qui sont délaissés par leur entourage ou même critiqués et tout. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Et Petit Pierre a été vraiment pris en charge par sa famille de façon très bien. En 2019, quand on a inauguré le manège, là, les 30 ans du manège ici, toute sa famille, tous ses neveux et nièces étaient là. Ils sont une dizaine, hein, et ils ont été très ravis, etc. Et ils continuent, et voilà. Et Léon Avzard, donc, l'emmenait, son frère, tous les ans en voyage. Et ça a été, très, très, très important.
Alors, la deuxième aventure, vous venez de l'aborder, ça a été le sauvetage du manège, parce que donc, il passe de Feuillologe et un jour, il arrive ici, en Puisaye. Alors, comment ça s'est passé? Parce que c'est une histoire complètement incroyable.
Oui. Donc, le manège, Petit Pierre s'en occupait tous les jours, parce qu'il faut sans arrêt... il est fait avec des engrenages et des roues de vélo, enfin des chambres à air de vélo, de moto, etc. Bon, donc forcément, c'est pas d'une solidité à toute épreuve. Donc tous les jours, il le rafistolait jusqu'au jour où il a eu une crise d'hémiplégie en 74, je crois, la première. Donc là, après, il a été placé en maison de retraite et il ne venait que le week-end en taxi, s'il vous plaît, faire tourner son manège parce qu'il avait plein de visiteurs. Il y avait un parking, toujours sur les terres de son patron, là, il avait organisé un parking, et il avait plein de monde. Et il était très, très connu dans la région. C'était vraiment l'attraction familiale du dimanche.
Ça changeait des châteaux.
Ça changeait des châteaux de la Loire, comme ils m'ont dit là-bas quand je suis allée enquêter. On dit, ouais, les enfants, hein, les châteaux de la Loire. Bon, ils adoraient aller au manège de Petit Pierre. Et en plus, Petit Pierre était très farceur. Il communiquait vraiment. En fait, son outil, c'est devenu un outil de communication, son manège. Hein. Grâce à son manège qu'il arrivait à communiquer avec les gens, puisque il savait parler, mais c'était assez inaudible. Donc voilà, quand il mettait le manège en route, ce qu'on peut faire, les gens étaient tellement émerveillés et lui, il riait, il était heureux. C'était fou, quoi.
Sauf que donc, Petit Pierre est trop âgé pour s'en occuper tous les jours, donc il vient plus que le week-end, donc voilà. Ça se délabre,
c'est vandalisé et des pièces sont volées. On en retrouve parfois un petit peu d'ailleurs à droite à gauche en ce moment. Le frère Léon essaye de remuer ciel et terre pour le sauver, mais c'est quand même très difficile à sauver. Et il contacte, je ne sais pas comment, ça, il manque un peu des maillons peut-être, Laurent Danchin, qui était un critique d'art spécialisé en art brut. Et Laurent Danchin se démène auprès du ministère de la Culture, auprès de la région, auprès des élus, pour faire quelque chose. Effectivement, il y a des projets.
Des projets fous,
couvrir d'une serre. Donc, ça coûtait très cher. Après, la région s'est dit, ah oui, mais après, il faut embaucher des gens pour l'entretenir, pour le faire visiter. Oh là là, où est-ce qu'on va ? Alors après, le ministère de la Culture a proposé qu'on l'emmène à la Villette. C'était les débuts du parc de la Villette. Ça aurait fait un très beau pendant aux folies de Tchoumi, là, les bâtiments rouges. Ça aurait été très bien. Mais pareil, le problème déjà du transport, du remontage et de l'entretien après et du fonctionnement a arrêté tout le monde. Bon.
Un jour, Danchin rencontre votre père et là, il se dit, c'est lui qui va sauver.
Et ils se rencontrent en 86 Et il lui a tout de suite parlé. Mais mon père connaissait le manège de Petit Pierre. Il l'avait découvert en 81. Alors, on a des photos. Nous, on y allait, enfants, avec lui. Donc, on connaissait déjà. Il lui parle de ce sauvetage. Bon, et mon père dit, bah oui, moi, je ferais bien quelque chose. Mais bon. Et finalement, Léon se désespère et dit à Danchin, mais maintenant, tout est arrêté. La culture, la région ne veut plus rien faire. On fait quoi? Et Danchin lui dit, vous le donnez à la fabuloserie. Il n'y a qu'Alain Bourbonnais en France qui va s'en débrouiller. Et il n'avait pas tort.
Parce voilà. Qu'Alain, votre père, il avait plein d'amis haut placés. Oui. Et il avait plein d'amis parmi les gens du peuple, oui, et particulièrement les habitants ici. Oui, oui, et ce sont eux qu'il va solliciter pour voilà. Ça.
On connaissait bien Guitou, qui était un transporteur, enfin camionneur. Donc Guitou lui dit, ah ben pas de problème, on met le manège dans mon camion le week-end, la tour Eiffel. Donc, on connaissait le garagiste. Ah ben oui, alors donc Léon finalement se décide à donner le manège. Un matin de juillet 87.
Petit Pierre.
Petit Pierre n'est pas mort. Et Petit Pierre décédera après mon père. Il décède en 92, je crois.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est moi qui prends Léon au téléphone. J'étais là, je faisais mon diplôme d'architecte dans l'atelier là-bas. Et il dit, voilà, j'ai décidé, je donne le manège à la fabuloserie. Oh, mon père, fou, complètement fou. On est parti le lendemain, là-bas, sur place, avec appareil photo, maître, décamètre, tout, carnet de croquis.
Ouais, c'est ça.
Et il a fait un vrai relevé d'architecte pour remettre tout, effectivement, après, en place. Parce qu'après, si vous ne remettez pas les éléments bien, ils ne peuvent pas fonctionner avec les mécanismes derrière. Parce que c'est relié par des tiges en métal, enfin en acier et tout ça, il faut que tout soit impeccable, quoi. Donc voilà, donc, il a été démonté dans la foulée. En août 87. Et il est arrivé ici, en pièces détachées, évidemment, et dans un état assez terrible. Et malheureusement, notre père est décédé en 88, et le manège n'était pas remonté, à part la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle avait été érigée quelques mois avant. Donc c'est la seule pièce qu'il a vue remonter de son vivant. Et donc, ben après, les gens du village qui avaient participé au démontage sont venus voir notre mère et ont dit, en mémoire de Petit Pierre et d'Alain, on s'y met, on s'y colle. Puisqu'on a participé au démontage, on est les plus à même de pouvoir le remonter, ce qui est logique, parce que sinon, on ne sait pas comment s'y prendre. Bon. Et puis, on avait à l'époque un jeune qui faisait qu'on avait embauché comme guide ici, Pierre de la Justina, qui est maintenant sculpteur, et donc qui avait participé avec mon père à faire les relevés et tout ça, et donc qui est resté plusieurs mois avec maman pour la seconder pour le remontage, parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui guide et qui a un petit peu quand même une vue de tout et qui sache lire les croquis, les métrages, etc. Donc voilà.
Tout a été vraiment remonté dans les moindres détails. Il y a même ça, là, depuis tout à l'heure, je vois ça, là. Alors ça, c'est pas la même boîte, hein, mais
quand même, connectable, c'est vieux.
Elle était là pour mettre les sous.
Ah oui, et les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent du Loiret, donc qui ont connu Petit Pierre in situ, ils sont médusés, ils disent, mais c'est pareil, c'est la même chose. Mais on avait aussi beaucoup de... Bon, les documentations faites par mon père, il y a eu aussi des films, beaucoup. Emmanuel Clot avait fait un très beau film. Enfin, on avait beaucoup de documentation pour le remonter. Donc voilà, effectivement, c'est la même chose.
Alors, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que là, aujourd'hui, vous demandez aux gens de vous aider à sauver cette chose incroyable. Racontez-nous.
La tour Eiffel, Petit Pierre avait bien pensé à la faire en bois d'acacia, qui est un bois putrécible. Et d'ailleurs, comme tous les bois qu'on voit, il avait vraiment pensé à ça. Il avait vraiment l'idée de sauvegarder son œuvre. Enfin, son manège, ce n'est pas une œuvre pour lui, c'était son manège. Mais bon, le temps, l'acacia, c'est pas éternel, c'est comme nous. Ça serait mieux si on était en acacia, je crois. Mais enfin, bon. Oui. Donc là, avec le temps, elle s'abîme. Enfin, elle est complètement abîmée. Et 23 mètres. Et c'est surtout en hauteur, elle est très, très atteinte. Et donc, on a un élagueur qui entretient le parc depuis très longtemps et qui a aubané. On voit qu'elle est aubanée, la tour Eiffel.
Je crois qu'elle a été aubanée
par lui. Oui, voilà. Et là, il nous a dit en janvier, là, ça va plus. Ah, regardez, c'est beau, hein, là. C'est beau. Donc, il dit, là, il faut faire quelque chose. Moi, je veux bien m'en occuper. Et voilà. Seulement, il nous a envoyé un devis. Et là, c'était un peu dur à avaler. Parce que nos caisses, comme les caisses de beaucoup de lieux culturels, et pas que culturels, hein, malheureusement de plein d'entreprises, ont été vidées par le Covid. Et donc, on ne pouvait pas régler cette réparation qu'il faut faire de la façon urgente.
D'accord. Donc, c'est urgent.
Ah oui, c'est urgent, oui. Ben oui, là, vous voyez, il fait du vent aujourd'hui, là, je suis inquiète.
Et ça,
là. Ouais. Et donc, on s'est dit, tiens, finalement, il y a plein de gens qui font ça, des campagnes de financement participatif. Ben, on va essayer. Hein. Et voilà, et on s'y est mis, on l'a lancé en début de semaine. Ça marche bien. Ah. Mais on en est à 40%. Wow. Et il nous reste 25 jours. Donc, voilà, mais il faut y aller.
C'est
il y a encore.
Sur quel site ?
KissKissBankBank. Et c'est une plateforme connue. Et voilà, et surtout, chaque plateforme, en fait, j'ai étudié les choses avant de choisir une, a son éthique. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui sont tournés vers l'écologie ou alors vers une création d'un artiste contemporain, enfin, qui est jeune, enfin, qui. Voilà. Donc, KissKiss est en fait la plus large parce que nous, c'est. C'est un peu atypique de demander pour réparer quelque chose qui existe déjà. Donc, notre projet a été accepté tout de suite. Ils nous ont félicités. Je fais ça avec Magali, qui a été une guide ici et qui nous a fait une très, très belle campagne. Elle est très jolie à voir visuellement. Elle est très bien. Ah, voilà, oui. Donc, allez sur le site du KissKissBankBank. Ça s'appelle Sauvegarde du manège de Petit Pierre.
Il faut atteindre quelle somme ?
Il faut atteindre, on a demandé 25 000. Pour avoir 20 000, parce qu'après, il y a les frais hein, de travail, de la plateforme, des frais d'envoi, parce qu'il y a des contributions, on vous enverra des livres. Et les dons commencent à 10 euros. Et comme on dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Donc, on a beaucoup de petits dons et puis d'autres plus grands. Et voilà. Chacun peut donner et voilà, participera donc à ce sauvetage. Parce qu'il y a la Tour Eiffel, mais il y a aussi, on ne le voit pas, mais les dessous. C'est pareil, la cabine et tout, elle repose sur des pieux d'acacia. Ils reposent un peu dans le vide, là. Ils sont un peu vermoulus à la base. Donc, il va falloir reprendre un peu tout ça.
Bon, écoutez, on termine là-dessus. Et voilà, on le fait fonctionner. Voilà, c'est ce que verront donc les gens à partir de ce week-end. Venez nombreux et participez à cette campagne de sauvegarde de la Tour Eiffel.
Sauvons le manège de Petit Pierre à la fabuloserie. Vous pouvez faire des dons sur KissKissBankBank. Nous allons bien entendu partager tous ces liens, tout ce qu'il faut sur notre page Facebook, sur la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loin. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Nous sommes aussi sur YouTube, sur c2l-radio.fr, sur Instagram. Enfin, bon, cherchez-nous, vous nous trouverez. Vous trouverez toutes les vidéos, toutes les interviews et reportages en vidéo que vous entendez au cours de nos émissions. Nous étions entre Loire et Loin à la fabuloserie. Merci à Sophie Bourbonnet de nous avoir reçus, à Marek pour son excellent café, à Sandrine Manteau, à Anita, JB, Émilie et toute l'équipe. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Je vous souhaite de passer une bonne semaine à l'écoute de ces deux ailes et on se donne rendez-vous samedi prochain à 10h pour un nouveau magazine du Gâtinais. Salut.
C2L.
here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man-eater.